Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Malcolm.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Quel est le point commun entre La petite maison dans la prairie et Malcolm?
Tu ne te rends pas compte à quel point tout ça est délicat.
Entre un western mélodramatique et une comédie familiale. Que les deux séries soient multi-rediffusées sans cesse sur les chaînes du groupe M6, oui, ça personne ne peut le nier. Mais pas que. En fait, il y a une passerelle entre ces deux séries, pourtant très différentes, et même diamétralement opposées l'une de l'autre. Mais tout d'abord, on va revenir un peu en arrière. À l'aube de l'an 2000 aux États-Unis, les années sitcom sont un peu passées de mode. Et même franchement enterrées. Fini l'époque où Seinfeld et Friends avaient déclenché une véritable frénésie, où les sitcoms pleuvaient, où les grilles de programmes en regorgeaient, où la France s'était même lancée en fer avec H ou Blague à part, et où AB envahissait les fins d'après-midi de TF1 avec des comédies au relent de soap-opéra, mais que pourtant on appelait sitcom par totale méconnaissance du genre. Bref. D'ailleurs, tiens, ça me permet de vous donner de quoi briller en société et faire étalage de votre culture auprès de vos amis. Sitcom, c'est quoi exactement? Est-ce que Les Feux de l'amour, c'est une sitcom? Non, ça, c'est un soap. Le terme sitcom, eh ben, ça vient de la contraction de deux mots. Situation comedy, une comédie de situation. Sitcom, facile, le sens est dans le mot. Une comédie, donc une série dont le but est de faire rire. Pour y parvenir, chaque épisode dure une demi-heure, met en scène les déboires d'une famille de personnages, qu'ils soient collègues de travail, amis dans la vie ou famille à la maison, et plus rarement d'un seul personnage un peu outrancier. Donc, on est très loin du feuilleton quotidien de fin d'après-midi destiné uniquement aux adolescents. Vous voyez un peu ce que je veux dire, hein ? Parce que la sitcom, elle est diffusée dans son pays d'origine une fois par semaine et en prime time. Donc, aux États-Unis, la sitcom côtoie les séries dramatiques et elles sont diffusées dans la continuité d'un Urgence ou d'un X-Files, par exemple, d'un Esprit criminel, d'un Dexter ou même d'un Game of Thrones, en soirée. Bref, c'est un genre noble. Noble, mais un peu mort. Mais bien le dire. Hein. Enfin, on annonce régulièrement la mort de la sitcom télé, dès qu'elle baisse un petit peu en quantité ou qu'elle sort des radars. Mais il y a toujours des sitcoms, de Girls ou du Drew Carey Show, par exemple. Parce que les spectateurs, vous, moi, on a toujours envie de rire. Il suffit qu'il y ait un projet un peu innovant pour redynamiser tout ça. C'est donc la situation en 2000. On attend l'étincelle qui va remettre le feu à un paysage sitcomesque, si j'ose dire. Et l'étincelle va venir de La petite maison à la prairie. Ce qui est un comble, quand même, quand on y pense. Mais attendez, patientez, vous allez comprendre. En janvier 2000, Malcolm est lancé sur le network Fox, le dimanche soir, dans le bloc de comédie animée. À savoir Les Rois du Texas, King of the Hill, Futurama et Les Simpsons. C'est assez habituel de lancer des nouveautés en milieu de saison, en janvier. Cela permet de remplacer les nouveautés de la rentrée septembre qui se sont un peu bananées. Fox croit beaucoup en cette nouvelle comédie, Malcolm in the Middle. Elle est impertinente, elle est innovante et elle nous parle d'une famille. Mais je vais laisser le créateur de la série, Linwood Boomer, nous la décrire par le détail. On est dans un congrès, un salon réservé aux professionnels de la télévision. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit autour de lui. Ça s'appelle le NatPi. Et c'est à Las Vegas. Le personnage central est Malcolm. On ne connaît pas son nom de famille. On ne connaît pas non plus la ville où il vit avec sa famille. On n'est même pas sûr de l'époque où ça se déroule. Et Malcolm, c'est ce petit garçon, tout ce qui est le plus normal. Il aime faire du skateboard, il aime chahuter avec ses frères, se moquer des têtes d'ampoule, les autres enfants un peu intello de sa classe. Et on découvre qu'il a un quotient intellectuel de 165. C'est un génie. On l'enlève donc immédiatement de son école pour enfants normaux, pour le mettre dans une classe avec tous les geeks, les enfants qui font de la chimie ou des mathématiques avancées. Lui, il veut être un enfant normal, mais il devient la cible de tous les costauds de l'école. Et il tente de trouver comment il peut vivre de façon dont il le souhaiterait, même si dorénavant, sa famille le traite différemment. Le problème vient aussi de sa mère, Loïs, qui est interprétée par Jane Kaczmarek, une actrice formidable, absolument hilarante. Et Loïs est une femme déterminée, forte. qui prend tout en charge et qui est entourée par 5 idiots. Elle passe toute sa vie à défaire le bazar que font ces garçons. Et s'ils faisaient uniquement ce qu'elle leur dit et s'ils lui obéissaient, tout serait très bien. Mais non, ce n'est pas ce qu'ils font. Son mari, Al, a un travail. Bon, on ne sait pas de quoi il s'agit. On sait simplement qu'il ne l'aime pas beaucoup et que ça ne lui rapporte pas assez, ce qui l'oblige à travailler à mi-temps ailleurs. Une des choses dont je suis assez content avec la série, c'est qu'il ne s'agit pas d'une famille de séries télé, dans le sens où ils ne sont pas riches. Ils n'ont pas de beaux vêtements. Ils n'habitent pas dans un superbe appartement de Manhattan. Mais dans une maison toute petite. Elle est dans un état désastreux. Leur pelouse est la plus moche de tout le quartier. Les voisins lui disent « Hey, tondez votre pelouse un peu et mettez vos poubelles sur le trottoir. » Il y a 4 panneaux de mise en vente de chaque côté de la maison et ils sont en permanence sur le point de se barrer. Le père, lui, même s'il ne gagne pas bien sa vie, c'était pas un mauvais type. Mais il est toujours distrait par quelque chose. En fait, je crois qu'il construit une fusée dans son jardin quand il est censé passer du temps avec sa famille. On a même un super épisode où il va démissionner de son travail parce qu'il en a vraiment marre et il va devenir un artiste. Il veut peindre un tableau. Ça fait 20 ans qu'il y pense, un tableau de 6 mètres de haut. Et il le fait. Et il promet que quand il aura terminé, il se fera réembaucher. Ensuite, il y a l'autre fils, le plus âgé, qui est un très grand fauteur de troubles. Bien sûr, ses jeunes frères l'idolâtrent et ils pensent qu'il est juste un dieu. Son nom est Francis, il est incarné par Chris Masterson. Il est synonyme de problème. Sa famille l'a envoyé dans une école militaire et maintenant, il n'a plus à se chamailler avec ses jeunes frères. Il l'aime donc encore plus qu'avant. Il est la personne qui l'appelle quand ils ont des problèmes avec les parents. Ils ont besoin de savoir comment s'en sortir. Puis il y a le deuxième fils, Reese, interprété par Justin Berfield. Il est juste hilarant. C'est un petit voyou, quoi, en fait. Il va sans doute mal finir. Il n'est pas très futé, mais il est très loyal envers sa famille, avec donc un jeune acteur qui est très drôle. Et puis il y a le plus jeune, Dewey, qui est à moitié un garçon. Il est à moitié un garçon, à moitié un animal de compagnie, quoi. Un peu comme un hamster ou un poisson rouge. C'est un petit garçon très, très, très étrange. Quelquefois, on voit ce qui se passe dans sa tête et ça n'a strictement rien à voir avec la réalité. Beaucoup de petits enfants sont comme ça. Ils sont perdus dans leurs rêves. Violence just got a little more random. Voilà, rien de mieux que d'avoir la description des personnages de la bouche même de celui qui les a inventés. Le monsieur en question, celui qui vient de parler, c'est Linwood Boomer. C'est donc le créateur de la série, mais c'est aussi un comédien. Et c'est par là qu'arrive le lien avec la série de Michael Landon, La petite maison dans la prairie. Et oui, parce que Linwood Boomer, il tenait un rôle régulier et constant dans la série, celui de Adam Kendall. Bon, ne m'en demandez pas plus, moi je reconnais très humblement que je ne suis pas le plus grand spécialiste mondial de La petite maison dans la prairie. Mais il travaillait et il avait un rôle dans La petite maison dans la prairie. Linwood Boomer est donc un acteur, mais c'est aussi un producteur. Il a travaillé dans des séries comme Ricky ou la belle vie, Silver Spoon, dans Troisième à partir du soleil, Third from the Sun, et il a même tenté d'importer aux États-Unis une série bien connue, si vous êtes un peu fan de science-fiction, une série anglaise qui s'appelle Red Dwarf. C'est une comédie britannique de science-fiction complètement déjantée, extrêmement culte. Il en a produit un pilote, mais ce pilote n'a pas été retenu. Et très récemment, il a développé une série qui s'appelait The Kowanski auprès de la boîte de production de Lloyd Braun. Vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose peut-être Lloyd Braun, hein ? Eh ben oui, c'était lors d'un précédent Previously on Previously, si on veut dire. Lloyd Braun, souvenez-vous, c'était celui qui, au sein de la chaîne ABC, a eu l'idée de faire Lost. Il a été viré juste avant que la série ne devienne un carton phénoménal. Et un jour, Boomer a l'idée de Malcolm. C'est ce qu'il m'a raconté. C'est basé sur ma propre enfance. J'ai eu ce que je considère avoir été comme une enfance absolument horrible, injuste et très traumatisante. Et quand je racontais aux gens des histoires sur mon enfance, horrible, injuste et traumatisante, ils pensaient que c'était très drôle. Et mes amis me disaient, encore et encore, tu devrais l'écrire, ça ferait une excellente série. Alors c'est ce que j'ai fait. Ben, il s'avère qu'ils avaient raison. C'est juste à propos d'une vraie famille, par opposition aux autres familles normales des séries télé. Une famille où tout le monde fait des choses bien, et une famille où tout le monde connaît les réponses à chaque problème. Eux, ils sont en conflit, mais ils sont unis. C'est un peu plus réaliste, et c'est pour cela que c'est drôle. This Justin, where to begin? Grin and bear it, it's bear and grim. Malgré les situations excessives et cartoonesques, il y a toujours une scène ou une remarque qui permet de relier les personnages à la réalité. Des factures à payer, des ennuis au boulot ou quelque chose comme ça. Malcolm, ou Malcolm in the Middle, n'est donc pas une sitcom rigolote qui fait les belles après-midi des chaînes du groupe M6, mais c'est surtout a huge influence on TV's newest comedies. Une énorme influence sur toutes les nouvelles comédies télé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Matt Rouche, le critique attitré du magazine américain TV Guide lors de leur traditionnel numéro Fall Preview annuel. Et pour que Matt Rouche écrive ça, parce qu'il a quand même un peu la dent dure généralement, moi je vous dis, c'est que vraiment ça vaut le coup de s'y attarder. Et pourquoi un tel engouement? C'est parce qu'à mains égards, Malcolm change du format habituel. Des sitcoms qui dynamitent le mythe de la famille bienveillante et gentille, il y en a déjà eu. Marié deux enfants, par exemple, qui permit au tout nouveau network, la Fox, de se démarquer de ses concurrents dès le premier jour et de montrer son impertinence. Et puis, il y a eu les Simpsons, qui, bien qu'animés, mettent en scène une famille dysfonctionnelle, avec un vrai petit démon à la personne de Bart. Bah tiens, celle-là aussi, elle est sur la chaîne Fox. Donc on peut penser que si Malcolm atterrit sur la chaîne Fox, bah, ça paraît logique. Sauf que, initialement, Linwood Boomer développe le script pour une autre chaîne, un autre network, qui n'existe d'ailleurs plus de nos jours, UPN. Mais en cours de route, la chaîne change de stratégie éditoriale, le projet n'y a plus sa place, et arrive donc Doug Herzog. Alors bon, le nom ne vous dit rien, c'est l'ancien président de la chaîne Comedy Central. Il vient tout juste d'arriver en tant que nouveau président des programmes de la Fox. À peine en poste, depuis quelques semaines, on lui envoie le script de Malcolm. Et tout de suite, il lance la production du pilote. Aucune remarque, aucun changement. Il trouve ça absolument délirant, il trouve ça génial et il donne le feu vert. La raison ? Non seulement Malcolm est une comédie très drôle, mais c'est Malcolm. À la différence des Bundy ou des Simpson, la série est vue par les yeux de Malcolm, ce jeune enfant turbulent qui voit sa vie changer et porte donc un regard non seulement sur lui-même, mais sur toute sa famille. Et son regard, il ne se cache d'ailleurs pas pour nous en parler. Malcolm brise souvent ce fameux quatrième mur, celui où se trouve la caméra, en s'adressant directement à elle et donc à nous. Et cela des années avant que Francis Underwood ne fasse de même dans House of Cards, mais bien après que David et Maddie ne le fassent aussi dans Clair de Lune. Il y a une autre très grosse différence qui fait que Malcolm n'est pas totalement une sitcom comme les autres, c'est son format de production. Malcolm est monocaméra alors que l'immense majorité des sitcoms sont des multicaméras. Là ça y est, je vous ai perdu. Ça, je le sens bien. Ça, vous n'êtes plus là. Vous allez dire, oh, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le succès de la série ? Ces éléments techniques dont on ne comprend pas un traître mot. Mais non, non. Restez, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est limpide. Aux États-Unis, on distingue deux formes de sitcom. Les multicaméras, ce qu'on appelle multi-camera comedy en anglais, avec l'accent s'il vous plaît, et les monocaméras, les single-camera comedy. Pour les multicaméras, les épisodes sont tournés en public, un peu comme une pièce de théâtre avec des décors sur une grande scène, le public qui est en face, public qui n'est jamais montré à l'image, mais avec des rires, les rires du public qui soutiennent le jeu des acteurs en le dynamisant et qui contribuent aussi à donner du punch aux situations. C'est tourné dans l'ordre, en une seule session de plusieurs heures, et il y a de nombreuses répétitions les jours qui précèdent. Donc que ce soit Friends ou Big Bang Theory, c'est la procédure la plus répandue pour les sitcoms. Et on appelle ça donc multicaméra. Parce qu'il y a devant la scène 4 ou 5 caméras qui tournent simultanément les scènes avec des valeurs ou des cadres différents. Donc voilà, ça c'est la sitcom, on va dire, traditionnelle. Par contre, quand on passe à la sitcom monocaméra, on est dans la même configuration qu'un film ou qu'un épisode de NCIS, par exemple. On tourne avec une seule caméra, un plan après l'autre, dans le désordre, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et bien sûr, ben là, il n'y a pas de public. Et ça peut prendre des jours et des jours. Donc, dès que la comédie nécessite du burlesque, par exemple, des effets visuels, des cascades, ben, ça doit être tourné de cette manière. Il n'y a pas le choix. Mais évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. La différence est énorme. C'est pour cela qu'on privilégie toujours le format plus traditionnel à la Cosby Show ou à Friends. Mais ça ne signifie pas qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Souvenez-vous, les comédies un peu surnaturelles des années 60, comme Ma sorcière bien-aimée ou La famille Adams, en passant par Génie de mes rêves ou Monsieur Ed, le cheval qui parle, hein, qui se souvient de Monsieur Ed, le cheval qui parle? Bon, personne, et vous avez bien raison. Ben, tout ça, c'était en monocaméra. Il n'y avait pas le choix. Pour faire parler un cheval, c'était obligatoirement des effets spéciaux. Ça ne pouvait pas être devant un public en direct. Et Samantha, elle ne pouvait pas remuer son nez et disparaître en direct devant un public. Ce n'était pas possible. C'est aussi comme cela qu'on produit des comédies plus adultes et luxueuses pour les chaînes du câble, justement pour leur donner un style plus luxueux, justement. C'est le cas de Dream On ou de Sex and the City, ou même sur une chaîne gratuite comme la CBS, le fameux MASH, la série mythique, ou même Parker Lewis. Là, ça faisait quand même très très longtemps qu'une telle comédie, forcément plus visuelle, plus dynamique, mais plus coûteuse aussi, apparaissait sur une chaîne de télé gratuite. Yes, no. Maybe I don't know. Donc vous comprenez, avec le côté impertinent, avec le luxe d'un tournage monocaméra et tout, tout est réuni pour faire de cette nouvelle comédie un petit événement. Mais on ne s'attendait pourtant pas à ce que ça soit un tel événement, un tel plébiscite. Le premier épisode de Malcolm in the Middle, le 9 janvier 2000, réunit 23 millions de spectateurs. 23 millions qui sont intrigués par la campagne de marketing et par la diffusion juste après les Simpsons et juste avant les X-Files. Bon, ça aide un peu, bien sûr, mais quand même. Donc on se dit, pour un premier épisode, c'est très bien, mais avec les séries, il faut voir sur la longueur. Donc on attend la semaine suivante. Et là, le meilleur arrive, en deuxième semaine. Non seulement la série prouve que ce n'est pas qu'un effet de curiosité, mais elle augmente encore plus ce score de 23 millions. Elle passe à 26 millions de téléspectateurs. Et on est à une époque où il n'y a pas de replay. Donc c'est véritablement le visionnage instantané. La saison 1, qui compte 16 épisodes, se paye même le luxe de se clôturer par un cliffhanger, un pari, alors que tous les épisodes étaient déjà produits avant d'avoir le moindre indice sur le succès ou l'échec de cette série hors du commun. Dans le dernier épisode de cette première saison, la babysitter de Dewey s'écroule, terrassée par une crise cardiaque alors qu'ils sont en pleine promenade. Bon, initialement, dans les scripts de départ, elle devait kidnapper Dewey, mais faire rire avec un kidnapping d'enfant, ça allait un petit peu trop loin, même pour Malcolm. La babysitter meurt donc, et la babysitter, c'est Béatrice Arthur, la vedette de Maud et des Golden Girls. Pendant tout l'été, le marketing de la chaîne Fox martèle les messages, mais où est passé Dewey? Malcolm est donc un méga-hit, dès son démarrage. Et il propulse absolument tout le monde sur le devant de la scène, et en priorité l'interprète du rôle titre, un jeune comédien du nom de Frankie Muniz, qui a 14 ans à l'époque, et qui est lui aussi au Natpi à Las Vegas en janvier 2001. Être à la maison, pour moi, c'est m'amuser. Je suis dans mon élément, évidemment, en fonction de la situation. Mais aussi, vous savez, je ne suis pas réellement un génie. Mais comme on ne voit pas réellement beaucoup Malcolm à l'école en train d'étudier, c'est pas trop difficile pour moi. Je n'ai pas de choses compliquées à faire. Nous sommes donc au Netpi en 2001. Preuve que la série est la révélation de l'année passée, toute l'équipe s'y est rendue, avec donc aussi l'interprète de Hal, le père de la famille, un certain Bryan Cranston. Vous savez, notre série ne craint pas de montrer les parents en train de hurler sur leurs enfants. Et tout spécialement la mère. Elle leur hurle dessus et pourtant elle les aime de tout son cœur. Ce sont des enfants tels qu'on les voit dans la vraie vie. C'est ce qui se passe dans toutes les maisons du monde, quel que soit le pays. C'est la réalité. En tout cas, c'est une partie de la réalité. Mais on est une famille très unie et on dîne ensemble tous les soirs. Est-il utile de vous rappeler que quelques années plus tard, Cranston sera Walter White dans Breaking Bad? Si vous voulez en savoir plus, écoutez le Previously qui est consacré à cette série majeure. À la rentrée 1990, la série est maintenant considérée comme un méga hit par la chaîne Fox, à tel point qu'ils vont la diffuser deux fois par semaine durant le premier mois, histoire que ça draine tout un public sur une autre soirée que le dimanche. Mieux encore, on admet que si la série est un carton, c'est exactement parce qu'elle est à l'opposé de toutes les autres sitcoms et que son impertinence et son anticonformisme doivent absolument être conservés. Mais, oui, il y a un mais, il y a toujours un mais. Les enfants grandissent et ils passent au stade d'ado, avec des émois d'ado. Et Malcolm, par exemple, Frankie Muniz, il fait sa mue. Pour remédier à cela, la série inclut ses changements et se focalise un peu plus sur les parents. On muscle aussi un petit peu la galerie de personnages. Il y a par exemple Craig, le collègue de Loïs qui est amoureux d'elle. Il y a le commandant Sprangler avec son bandeau sur l'œil, son crochet à la place de la main, qui est le chef de l'école militaire de Francis. Il y a Stevie, le jeune ami de Malcolm dans son école pour surdoués, qui est sur son fauteuil roulant et qui est très fortement asthmatique. C'est au cours de cette saison que Cloris Leachman tient le rôle de la grand-mère Ida. Alors, Leachman, c'est une actrice de légende. Elle a joué dans Quatrième vitesse de Robert Aldrich et dans La dernière séance de Peter Bogdanovich, pour lequel elle a même remporté un Oscar. Mais vous la connaissez sans doute car elle figure dans pas mal de films de Mel Brooks, comme par exemple dans Frankenstein Junior. Frau Blücher, c'est elle. Ces séries sont des classiques aux États-Unis, mais on ne les a pas vues en France. Et pour son rôle dans Malcolm, elle a même remporté 2 Emmy Awards. Et puisqu'on parle d'Emmy Awards, cette même saison, ce sont le scénariste Alex Reed et le réalisateur Todd Holland qui ont remporté un Emmy pour un épisode assez inhabituel. L'épisode s'appelle Pile ou Face. Les enfants font bowling, mais on voit en simultané s'ils vont bowling avec le père, Al, et ce qui se passerait s'ils iraient au bowling avec la mère, Loïs. Pour clôturer la saison, dans le dernier épisode, un flashback va nous montrer la naissance des enfants. En saison 3, Malcolm, à savoir un peu Frankie Muniz, mais enfin surtout Malcolm, a 15 ans. Il devient crucial pour Malcolm de se trouver une petite amie. C'est un peu le centre de la saison. Francis devient légalement un adulte, grâce à un avocat un petit peu véreux, on va dire, hein, pas très regardant. Il peut donc quitter son école militaire, mais ce n'est pas pour autant qu'il va rentrer à la maison familiale. Il se rend dans un camp de bûcherons en Alaska. Il va d'ailleurs se marier avec une Inuit qui s'appelle Piama. Cette saison, comme c'est la chaîne Fox qui diffuse le Super Bowl, oui, parce que c'est en alternance avec les autres networks, hein, une année c'est l'un, une année c'est un autre, et ainsi de suite, eh bien Malcolm est choisi pour avoir l'honneur et la chance d'être programmé juste après le match, ce qui lui garantit une audience maximum. Généralement, il s'agit assez souvent d'épisodes spéciaux, comme ça a été le cas avec Friends ou avec Alias. Là, l'épisode de Malcolm, Picnic Fatal, fait une heure, et non pas 30 minutes, et se paye le luxe d'avoir Susan Sarandon et Bradley Whitford de West Wing comme vedettes invitées. Résultat, 21 400 000 téléspectateurs. Boum ! À la rentrée 2002 pour la quatrième saison, la grossesse de l'actrice Jen Kaczmarek est carrément incluse dans la série elle-même. Dans le dernier épisode de la saison, Loïs va donc donner naissance à un fils ou une fille ? Ben, on ne sait pas. On le saura dans la prochaine saison. On sait que son enfant s'appelle Jamie, mais étant donné que Jamie, ça peut être à la fois un garçon ou une fille, le mystère règne. Francis, lui, va quitter l'Alaska pour un ranch qui appartient à un couple d'Allemands un petit peu bizarre, Otto et Gretchen. Il va y travailler comme régisseur. Et on pourra noter la présence de Jason Alexander, oui, le George Costanza dans Seinfeld, dans un épisode où il joue un dépressif qui est le reflet de Malcolm avec 20 ans de plus. Et Christopher Lloyd, le doc de Retour vers le futur, va incarner dans un autre épisode le père de Hal. Nous sommes en saison 5, la famille s'agrandit donc avec Jamie, et Jamie, ben c'est un garçon. Malcolm va se trouver un travail auprès de sa mère. Vers la fin de la saison, Wiz va découvrir que sa petite amie flirte avec Malcolm. De désespoir, il va donc s'engager dans l'armée. Toujours vers la fin de la saison, Al est poursuivi pour une histoire de malversation, et Loïs est renvoyée, donc ça commence à sentir le roussi au niveau boulot. Et je vous avais dit que Béatrice Arthur avait déjà fait une apparition dans la série, maintenant c'est au tour de Betty White des Golden Girls d'apparaître dans un épisode. Et enfin, c'est Laurie Metcalf de Roseanne qui va tenir le rôle de la sœur de Loïs. En saison 6, Reese va revenir d'Afghanistan et Francis revient de son ranch, donc ils reviennent tous les deux. Bon, Francis, ça sera uniquement pour quelques épisodes. Et en saison 7, c'est la fin. La dernière de la série qui perd sa précieuse case horaire du dimanche soir après les Simpsons. On la rétrograde au vendredi soir, une soirée bien moins fréquentée par les spectateurs. Donc, c'est un peu la voie de garage. Les derniers épisodes reprennent leur place le dimanche soir, mais le final réunit 7 400 000 Américains. On est bien loin des 21 millions. Le créateur de la série, Linwood Boomer, apparaît d'ailleurs dans cet épisode. Et Frankie Muniz a dorénavant 20 ans. Bientôt, une autre série assez ressemblante à Malcolm fait son apparition. Elle s'appelle The Middle. Alors déjà, si on sait que le titre original de Malcolm, c'est Malcolm in the Middle, cette nouvelle série s'appelle The Middle. C'est une comédie, cette fois-ci centrée sur une mère débordée et stressée par sa famille. Muniz, lui, souffrira de 2 attaques cardiaques qui lui laisseront des pertes de mémoire importantes. On l'a revu dans la version américaine de Danse avec les stars. Et après de nombreuses années et des problèmes de droit, la série est maintenant entièrement disponible dans des coffrets DVD et dans un coffret intégral, donc c'est absolument indispensable. Reste une chose, apprendrons-nous un jour quel est le nom de la famille ? Dans le pilote original, le père porte le nom de Wilkerson, mais Linwood Boomer a enlevé cela pour qu'aucun des personnages n'ait de caractéristiques ethniques. On arrive à la fin de la série, et donc dans le dernier épisode, ben, peut-être qu'on va nous révéler leur nom, hein. Et oui, en fait, dans le dernier épisode de Malcolm, on peut lire sur le badge de Francis, enfin, leur nom de famille, No Last Name. Voilà, Francis, No Last Name. Hein, Al, No Last Name. Voilà, ça y est, on a le nom. Attendez, No Last Name, en anglais, ça veut dire No Last Name, pas de nom propre. Oh, les gens. Life is unfair. La semaine prochaine, on change radicalement. Je vais vous parler d'un tueur en série qui a rôdé sur les petits écrans pendant des années, interprété par Michael C. Hall, Dexter. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.